Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
J'avoue que dans ma carrière professionnelle, je n'ai jamais vécu cette situation-là, l'entreprise non plus. C'est vraiment un phénomène assez unique.
Le deuxième plus gros aéroport de France se met en sommeil. Orly, totalement fermé ce soir. Conséquence historique de l'effondrement du trafic aérien.
Les hôpitaux d'Île-de-France saturés. 38 patients vont être transférés par TGV médicalisés vers une autre région demain.
Emmanuel Macron veut restaurer la souveraineté nationale. Il lance l'effort de guerre. Made in France, 4 milliards d'euros pour fabriquer des masques et des respirateurs.
Et si de simples masques de plongée pouvaient aussi protéger les soignants, la marque Decathlon va en faire don aux hôpitaux.
Et puis à 20h, on applaudit, mais on peut aussi jouer. Question pour un balcon. Nouveau quiz entre voisins. On joue à la fenêtre, vous allez voir, ça cartonne.
C'est drôle. Ah,
on va tester alors. Et Anissa, je suis sûre qu'elle a testé.
J'ai joué demain. J'ai joué avec les voisins, on a fait un blind test. Alors la météo pour demain, plus sérieusement, du très beau temps sur les deux tiers nord du pays. Nous aurons encore quelques nuages sur les Pyrénées, le bord de la Méditerranée. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est l'image de la soirée, les pistes d'Orly à l'abandon, les terminaux vidés de tout passager, conséquence de l'effondrement du trafic aérien. Le deuxième aéroport de France ferme totalement, du jamais vu depuis la guerre. Aurélien Fleureau, le tout dernier vol vient de partir.
Oui, la journée se termine après seulement une petite dizaine de mouvements sur les pistes, quelques départs, quelques arrivées, alors qu'en temps normal, il y en a plus de 600 chaque jour pour en moyenne 90 000 passagers. Et donc à peine un millier de personnes dans les terminaux aujourd'hui. Désormais, ce qu'il reste du trafic d'Orly se fera du côté de Roissy-Charles-de-Gaulle. Et c'était donc une journée forcément très particulière pour Michel Landel, responsable de l'exploitation à l'aéroport d'Orly.
J'avoue que dans ma carrière professionnelle, je n'ai jamais vécu cette situation-là, l'entreprise non plus. C'est vraiment un phénomène assez unique. On ferme des infrastructures, mais ces infrastructures, elles restent bien évidemment sous surveillance parce que l'idée, c'est de se préparer à une reprise dès que celle-ci sera possible.
Orly va désormais fonctionner de jour comme il fonctionne d'habitude de nuit, c'est-à-dire que l'aéroport pourra toujours accueillir des vols déroutés, des vols d'État ou bien sûr des vols sanitaires. Cette fermeture va permettre au groupe ADP de faire quelques économies, même si sur Europe 1 ce matin, son PDG Augustin de Romanet a estimé à 1 milliard d'euros la perte de chiffre d'affaires à cause de la crise du Covid-19.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1, trafic aussi extrêmement réduit sur les rails, 42 TGV seulement par jour aujourd'hui contre 700 habituellement, un seul aller-retour Eurostar vers Londres, 18% des TER en circulation, le trafic a atteint son plancher, indique la SNCF, et ce soir les voyagistes français, les tours opérateurs annoncent reporter tous les départs prévus désormais jusqu'au 15 mai inclus, ça concerne 350 clients rien que pour le mois d'avril.
Et le virus qui met à l'arrêt l'économie et qui continue de faire des victimes jusque dans les EHPAD, 15 résidents. Une fois encore, 15 résidents sont morts du Covid-19 dans un établissement de Mougins, dans le Var. On apprend aussi la mort de 7 résidents d'un autre EHPAD, cette fois à Lorient, dans le Morbihan.
Et en Ile-de-France, la situation est toujours extrêmement tendue avec des services de réanimation tout proches de la saturation. 870 patients dans ces services, quasiment tous les lits sont occupés et 38 vont pouvoir être transférés demain par un nouveau TGV médicalisé. Écoutez Bruno Rioux, le directeur général de crise de la PHP.
Ce qui est prévu à partir de l'Île-de-France sur le transport TGV, c'est 38 malades. Les transferts interrégionaux qui sont mis en place, notamment ceux de demain, ça constitue une soupape de sécurité extrêmement importante, quand bien même ce n'est qu'une proportion très limitée de patients. On raisonne de manière globale, un lit libéré à l'intérieur de l'Île-de-France, c'est un lit libéré pour toute l'Île-de-France.
Les propos recueillis par Ève Roger pour Europe 1.
Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant, c'est ce qu'a promis Emmanuel Macron en visitant aujourd'hui une usine de masques près d'Angers, dans le Maine-et-Loire.
Il promet de rebâtir la souveraineté et l'indépendance française, ne plus dépendre de la Chine pour se procurer les matériels de protection. 4 milliards d'euros vont ainsi être débloqués pour en produire en France avec l'objectif de fabriquer 40 millions de masques dès le mois d'avril. 40 millions par mois, mais c'est la consommation des soignants en seulement une semaine. Ce ne sera donc pas du tout suffisant. De grands groupes français, PSA, Valeo, regroupés autour d'Air Liquide, vont fabriquer dans leurs usines 10 000 respirateurs pour les hôpitaux d'ici la mi-mai.
Et voilà le message du chef de l'État lancé aujourd'hui à ceux qui critiquent sa gestion de la crise.
Mon tempérament n'est jamais de m'exonérer de quoi que ce soit. Mais j'ai un principe simple. Quand on mène une bataille, on doit être unis pour la gagner. Et je pense que toutes celles et ceux qui cherchent déjà à faire des procès, alors que nous n'avons pas gagné la guerre, sont irresponsables. Le temps viendra de la responsabilité. Ce temps viendra. Et il est légitime et démocratique. Et à ce moment-là, la transparence complète devra être faite. J'appelle d'abord à la dignité et à l'esprit de responsabilité celles et ceux qui construisent des certitudes avec les connaissances d'aujourd'hui quand ça n'était pas celle d'hier. Vous savez, je pourrais retrouver les paroles de toutes celles et ceux qui vous expliquent les grandes difficultés, qui quelques jours avant ma première allocution du 12 mars, expliquaient qui il serait indigne de reporter les élections municipales, qui tout ça est une mise en scène du gouvernement et va trop loin. Tout le monde a appris et nous apprenons tous avec beaucoup d'humilité parce que cette pandémie est inédite.
Emmanuel Macron au micro de Jean-Rémy Baudot. Et puisqu'on parle des masques, voilà une idée dont on a pu penser que c'était une blague au départ. Un masque de plongée de la marque Decathlon, utilisé contre le coronavirus. Eh bien, c'est très sérieux. Des soignants l'utilisent déjà au point que Decathlon les retire de la vente pour offrir ces modèles aux hôpitaux. Ces masques qui recouvrent tout le visage ont été modifiés par des ingénieurs et dans le service de réanimation de l'hôpital Nord-Franche-Comté. On les utilise depuis ce matin. Arthur Mbaché.
Vous l'avez déjà vu sur la plage ou à la piscine, peut-être le voilà donc dans les services de réanimation. Le tuba intégré à ce masque intégral qui recouvre tout le visage a été modifié. C'est très utile au médecin réanimateur Sylvain Malfroy, surtout au moment critique, dit-il, de l'intubation.
On est au plus près de l'infection. À n'importe quel moment, si le malade se met à tousser par exemple, on peut en prendre un peu plein la figure. Finalement, le masque de plongée de Decathlon, il devient une protection parfaite avec un confort de vision et de respiration complètement satisfaisant.
En haut du tuba, un filtre utilisé normalement dans les respirateurs. Cécile Lamas dirige la pharmacie de l'hôpital Nord-Franche-Comté.
En fait, c'est un filtre qui a une efficacité de rétention virale et bactérienne à 99,9999%, alors que les masques FFP2, 98%.
Les ingénieurs de l'Université technologique Belfort-Montbéliard produisent 60 pièces par 24 heures avec imprimante 3D. La partie en haut du tuba pour fixer le filtre. Depuis ce matin, les demandes explosent. Les hôpitaux de Marseille, Douai, Lens, Clermont, Mulhouse, Colmar, Bruxelles, en Suisse. Alors impossible ici de tout produire. Ce soir, l'université met à disposition de tous les plans et fichiers numériques pour reproduire la pièce qui fait donc d'un masque de plongée Decathlon, une arme contre le coronavirus, Decathlon qui bloque la vente aux particuliers pour garder des stocks pour les soignants.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est, une région toujours sous tension où les autorités de santé s'attendent à voir le nombre d'hospitalisations baisser, mais pas avant le 15 avril, encore deux semaines à tenir.
À l'étranger maintenant, les ministres des Finances du G20 se sont réunis aujourd'hui même pour tenter de trouver des réponses communes. Ils promettent de venir en aide aux pays les plus fragiles. La France a lancé un appel à la solidarité en ce sens, notamment envers les pays africains. Et puis on va y revenir avec ces appels au cessez-le-feu dans les pays touchés par les conflits. Ils se font aussi entendre, Didier François nous explique à 19h20.
40 000 morts à travers le monde, dont les trois quarts à ce stade sur notre continent européen. L'Italie rend hommage à ses 12 000 morts en observant aujourd'hui une minute de silence. Le confinement y est prolongé au moins jusqu'à Pâques. Nouveau chiffre record en Espagne, 849 morts en 24 heures, mais aussi en Grande-Bretagne, près de 400 nouveaux décès. En Belgique, une enfant de 12 ans à peine a succombé. Et puis aux États-Unis, la vague est immense. Le nombre de morts y dépasse désormais le bilan officiel communiqué en Chine. C'est-à-dire plus de 3400 victimes.
Et nous sommes plus de 3 milliards à rester confinés désormais. Il faut se dire que cela marche. C'est en tout cas ce que nous indique une étude menée par des chercheurs britanniques. Ces mesures de restriction auraient sauvé 2500 vies en France aujourd'hui, en deux semaines, 59 000 à l'échelle de l'Europe.
Alors à la maison, on est à la fenêtre à 20h. On applaudit les soignants. Mais on s'amuse aussi. Après Question pour un champion que vous connaissez à la télévision, voici Question pour un balcon. Chaque soir, depuis une semaine, un habitant du 11e arrondissement parisien fait jouer toute sa rue par la fenêtre. Ils sont des dizaines de voisins à participer à ce quiz improvisé. Gros succès. Tout est retransmis en plus sur les réseaux sociaux, Justin Morin.
Oui, rendez-vous dans un peu moins d'une heure maintenant. Il y aura les applaudissements en soutien des soignants comme chaque soir. Et puis, ceci. Alors, ce n'est pas Samuel Etienne, mais Noam Cartozo, un comédien de 31 ans, privé de scène, à sa fenêtre du 4e étage. Costume noir, chemise blanche et chaussons. Les habitants des immeubles au numéro pair affrontent ceux des numéros impairs.
Le cadeau a gagné un lot de 20 rouleaux de PQ. Et attention, quel est le département numéro 71 ?
Savoie,
c'est pas ça. Ouais, j'ai entendu. C'est qui ? C'est Père. 2-0 pour les Pères, on vous attend très très fort.
Sa première vidéo enregistrée il y a une semaine a dépassé le million de vues sur les réseaux sociaux et ses abonnés explosent.
Je sais pas si c'est fou, si c'est n'importe quoi, si c'est un rêve. Des gens, voilà, je les vois qui sont avec leur smartphone, qui filment et ils me les envoient. Donc c'est super cool, je peux refaire une rediffusion de l'émission en multicam. C'est, voilà, c'est la seule émission qui est filmée par les participants, donc c'est plutôt drôle.
Vu le succès, des marques ont même contacté le comédien pour lui proposer des cadeaux à offrir à ses voisins.
À très très bientôt, à demain pour Question pour un. Allez, au revoir tout le monde.
Voilà, ça n'a jamais été aussi convivial dans les quartiers.
Ah ouais. Ouais, mais attendez, il n'y a pas de justice, hein. Ça dépend vraiment des quartiers quand même, hein. Moi, je peux vous le dire que c'est calme plat de mon
c'est
côté.
Calme chez vous. Ah, bah, faut aller dans le 11e.
Ouais, c'est ça.
Alors, nous, on fait de la radio à distance. Nathalie, on peut aussi faire de la musique à distance, oui, pendant ce confinement avec, vous allez entendre des résultats étonnants. Écoutez, ils sont plus de 130 musiciens, chacun chez eux, un peu comme nous, mais eux, ils font de la musique. Voilà ce qu'ils ont réussi à jouer. Il y a les chœurs, les trompettes, les violons, tout cela par écran interposé. Chacun avait sa partition. Le tout a été dirigé par le chef d'orchestre Samuel Sémé. 6 jours de travail pour le mixage quand même, mais ce résultat est assez bluffant. Vous avez reconnu, ouais, évidemment, Show Must Go On de Queen.
Queen.
Et les spectacles continuent.
C'est fou, hein, la qualité, tout ça, ça fonctionne extrêmement bien. Incroyable. Bravo à eux. On s'y met quand
allez, oula, non.
19h30, un nouveau point, mais pas en chantant. C'est comme vous voulez. Hein.
Non, on va le faire classiquement, je crois.
Allez, Anissa, toujours nuageux dans le sud demain. Ça, c'est parce que vous avez commencé à chanter.
C'est ça, exactement. Je suis désolée, hein, pour nos amis auditeurs du sud-est, mais demain, il y aura encore quelques nuages. Et puis sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, les Alpes du Sud. Là, demain, le ciel est nuageux, des nuages qui apportent quelques gouttes, notamment sur le Roussillon. Le vent d'autant, il souffle aussi dans ce secteur. Il souffle même assez fort, jusqu'à 90 km/h. Sur le bord de la Méditerranée, c'est le vent d'est qui souffle toute la journée, en moyenne à 60 km/h. Partout ailleurs, il fait très beau demain, avec de la Gironde aux Alpes, quelques petits passages nuageux, mais rien de très inquiétant. Et alors, partout ailleurs, alors sur la moitié nord, c'est l'été. C'est-à-dire que vous n'aurez que le soleil dans le ciel, pas un nuage, rien, un ciel bleu azur. Les températures, elles sont stationnaires, avec toujours des gelées matinales, moins 4 à 10 degrés de Montluçon à Perpignan. On aura moins 4 à Clermont-Ferrand, moins 2 à Nancy, 0 à Lille, 1 pour Paris, 4 à Brest et 8 à Toulouse. Et puis dans l'après-midi, nous avons quasiment les mêmes températures qu'aujourd'hui. 11 à Lille et Caen, 13 à Nice, Rodez et Strasbourg, 14 à Paris, 15 à Chambéry, 16 à Marseille et Lyon, 17 à Limoges. Et la maximale, elle est pour le sud-ouest. Périgueux, avec 18 degrés demain après-midi.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Avec dans un instant l'interview politique, Nathalie.
Oui, d'Aurélie Herbemont, comme chaque soir, au rendez-vous. Bonsoir Aurélie et votre invité
bonsoir
ce soir.
Bonsoir Nathalie. Mon invité ce soir, c'est Philippe Aguillon, professeur d'économie au Collège de France. Il est proche d'Emmanuel Macron. On va parler avec lui de la souveraineté à laquelle le chef de l'État se convertit face à la crise du coronavirus.
Dans une minute, votre interview politique, Aurélie Herbemont, c'est sur Europe 1.
De votre grand journal du soir sur Europe 1 à 19h15, c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont.
Avec votre invité ce soir, Aurélie, l'économiste et professeur au Collège de France, Philippe Aguillon.
Bonsoir Philippe Aguillon.
Bonsoir.
Emmanuel Macron explique aujourd'hui que la France doit rebâtir sa souveraineté et fabriquer davantage de masques, de respirateurs. Cet hymne à la souveraineté, c'est un virage pour le chef de l'État ?
Écoutez, je ne crois pas que ce soit vraiment un virage dans le sens que et ça fait longtemps qu'il pousse pour ce qu'on appelle une politique de l'offre, c'est-à-dire de dire voilà, il faut que notre industrie, notre production devienne plus compétitive et il faut créer un certain nombre de conditions pour qu'elle le soit, voilà, pour que Et donc je ne pense pas que ce soit une rupture en ce sens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui a été clairement affirmée l'idée de dire, voilà, il faut qu'on, tout en reconnaissant l'importance de la mondialisation, des échanges internationaux, il ne s'agit pas de se lancer dans une politique protectionniste, mais d'affirmer davantage eh bien, un contrôle sur les chaînes de valeur. Voilà, je crois que ça, c'est important. Et à faire un peu comme l'Allemagne fait. L'Allemagne n'est pas un pays fermé, mais l'Allemagne contrôle une fraction plus importante de ses chaînes de valeur.
Mais c'est du pain béni quand même malgré tout pour Marine Le Pen, ce discours sur la souveraineté, ou pour Jean-Luc Mélenchon qui plaide pour des relocalisations.
Non, l'idée c'est pas ça tellement, c'est pas de dire on va mettre des barrières douanières, on va mettre des, mais c'est de dire voilà, il faut une, voilà, davantage de politique de l'offre. Par exemple, moi j'ai regardé les composants de tests Covid. Vous savez, il y a un nombre de tests qui doivent être administrés ou qui sont administrés. Eh bien, la France est importatrice nette des composants de tests et l'Allemagne est exportatrice nette. Elle exporte et elle importe beaucoup, l'Allemagne. Donc l'Allemagne est une économie ouverte, il ne s'agit pas d'être une économie fermée. Mais l'Allemagne s'est donné les moyens d'être à la fois importatrice et exportatrice. Et nous sommes net importateurs et à des niveaux beaucoup plus bas que l'Allemagne. Voilà, donc c'est un exemple. Il y a les masques en est un autre, les respirateurs, c'est un autre exemple. Donc je pense que dans des secteurs comme celui-là, c'est important. Mais ce n'est pas juste national, d'ailleurs. Je crois que le président a été très clair. L'idée est de dire qu'il faut une politique industrielle qui ne soit pas juste française, qui soit également européenne.
Alors, il y a les tests, effectivement, vous en parliez. Il y a les masques, il y a les respirateurs. Bref, ce qui concerne l'indépendance sanitaire, vous diriez qu'aujourd'hui, on paye un peu la stratégie industrielle de la France de ces dernières années et pas forcément que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Oh oui, ça remonte à bien avant le quinquennat. C'est-à-dire que en France, il y a eu une désindustrialisation excessive. Voyez, donc il y a des choses qui doivent être délocalisées. Je crois beaucoup dans la spécialisation internationale. Mais on est allé, nous, trop loin. Tout ce qui était productif dans nos chaînes de valeur ont été, nous, en France, délocalisés. Alors qu'en Allemagne, ils ont délocalisé certaines parties, certains maillons productifs de la chaîne, mais ils ont valorisé d'autres maillons. L'industrie allemande pèse presque deux fois et demi plus que la française. Et dans certains secteurs, c'est beaucoup plus fort. Machines, équipements, l'Allemagne, c'est 6 fois plus que la France. Dans l'automobile, c'est 5 fois plus. Dans les équipements électriques, l'Allemagne, c'est 4,5 fois plus que la France. Voyez, par exemple, il y a des secteurs comme ça qui sont très importants. Entre 2000 et 2010, on décroche dans les secteurs que je vais vous mentionner. Et l'Allemagne, elle, bondit. Le secteur des machines équipements, l'industrie automobile. En 10 ans, les excédents ont doublé en Allemagne. Et nous, on est passé d'un excédent à un déficit. Les équipements électriques, les excédents ont doublé en Allemagne. La France part d'un léger excédent à un déficit. La chimie a triplé son excédent quand la France a à peu près maintenu le même faible excédent. La pharmacie allemande a quadruplé son excédent entre 2000 et 2010. Et la France améliore le sien à la marge. Vous voyez, mais parce que voilà, il y a des nombres de raisons qui font que l'Allemagne fait mieux que nous.
Alors vous le dites, l'Allemagne fait mieux que nous, mais alors Philippe Aguillon, Emmanuel Macron veut y remédier ces prochaines semaines, ces prochains mois, mais quand la désindustrialisation, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est à l'œuvre depuis de nombreuses années, c'est possible de faire machine arrière ?
C'est pas vraiment retourner en arrière, vous voyez ce que je veux dire ? Je crois beaucoup dans l'innovation, vous voyez, je ne crois pas qu'on doit revenir à nos vieilles spécialisations. Et c'est pas par les tarifs douaniers et par la protection, c'est là que je me sépare de Madame Le Pen ou des souverainistes, comme on dit.
C'est le fait de produire en France ce dont on a besoin.
Oui, c'est-à-dire d'abord essayer d'avoir une politique plus active de recherche, d'innovation, et de faire un certain nombre de choses qui font qu'on est plus compétitif, voilà. Et alors on a commencé à le faire, vous voyez, quand par exemple le CICE, puis les lois El Khomri, puis les lois Pénicaud, puis la flat tax, tout ça c'est des éléments qui nous ont permis de devenir plus compétitifs. Donc c'est pas que nous n'avons rien fait depuis disons le CICE, nous avons pris un certain nombre de décisions qui nous ont rendu plus compétitifs. Et on est un pays plus attrayant pour les investisseurs étrangers. Donc je pense qu'on s'est engagé depuis plusieurs années dans une politique de l'offre. Mais il faut aller plus loin et il y a, à mon avis, des secteurs clés dans lesquels il faut une action industrielle plus soutenue. Pas juste France, France et également avec d'autres partenaires. Moi, je crois beaucoup dans ce que j'appelle une DARPA franco-allemande. Vous savez, à l'image de la Defense Advanced Research Project Agency que les Américains avaient créé au moment de la guerre froide, ils sont devenus, le laser est venu de là, l'Internet est venu de là, l'espace évidemment. Et nous, on devrait créer une DARPA en France, mais aussi en coordination avec nos voisins. Et je crois beaucoup dans des initiatives de ce genre pour affirmer notre puissance industrielle, comme le fait la Chine, comme le font d'autres. Mais ça ne veut pas dire mettre des barrières douanières.
Pas mettre des barrières douanières. Philippe Aguillon, la crise aujourd'hui, évidemment, du coronavirus, elle est sanitaire, elle est aussi économique. Le gouvernement prévient déjà que le choc sur l'économie sera violent et probablement durable. Oui. Vous avez une estimation de l'impact sur l'économie française ?
Alors écoutez, il y a eu, par exemple, mes collègues Christian Gaulier et Stéphane Straub proposent une estimation de coin de table, mais qui me paraît assez réaliste. Ils disent, voilà, supposons que pendant 2 mois, on produise la moitié de ce qu'on fait d'habitude. Eh bien, à ce moment-là, ça coûterait donc 2 mois à la moitié, donc ça fait une réduction d'à peu près 8% du PIB. Mais c'est un chiffre optimiste parce que le retour à la
pleine activité. C'est-à-dire, c'est quoi, plus de 200 milliards d'euros ?
Alors, comme le PIB est à 2500 milliards, ça veut dire que si on veut arriver à 10%, c'est à peu près 250 milliards. Moi, je vois un coût, disons, de 300 milliards à peu près. Alors, il faut comparer ce coût aux 10%. Aux 10% de PIB que nous ont, aux 16% que nous ont coûté la crise de 29 et les 50% qu'a coûté la Seconde Guerre mondiale. Donc on est quand même 13 ans de ça, mais ça va bien coûter 300 milliards.
Et comment est-ce qu'on peut l'atténuer au-delà de ce qu'a déjà lancé le gouvernement ?
De toute façon, il y a différentes actions qui doivent être faites. Donc déjà, il va falloir remettre en état notre appareil hospitalier et puis traiter la crise sanitaire. Ensuite, il y a une grosse crise de la demande. Les gens les plus frappés, c'est les emplois précaires, les travailleurs indépendants, les commerçants et petites entreprises qui risquent la faillite. Il va falloir soutenir ces gens-là à travers les allocations chômage, le maintien des primes d'activité, les extensions de prêts, les crédits d'impôt. Donc là, il va falloir cibler. Et là, c'est vraiment une relance par la demande. C'est une relance keynésienne, comme on dit nous, dans le jargon des économistes. Il va falloir soutenir la demande de toutes ces catégories-là. Ça va coûter beaucoup d'argent. Donc il y a la première chose, c'est la crise sanitaire qui a le coût des investissements sanitaires. Puis il y a la relance de la demande. Et ensuite, il y a la politique de l'offre dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on veut moderniser notre appareil industriel et notre recherche. Vous savez qu'on sous-investit en recherche fondamentale en France par rapport à l'Allemagne. Donc ça part de la recherche jusqu'aux innovations de rupture. Vous voyez, on a toute une chaîne de production, d'innovation et de production où on sous-investit. Et donc là, il y a également des gros investissements à faire.
Un dernier point, Philippe Aguillon. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, lance un appel à la solidarité nationale via une plateforme de dons en ligne qui sera lancée dans les jours qui viennent. Dans l'opposition, certains disent que c'est le rôle des impôts, la solidarité nationale. Est-ce que rétablir l'ISF tel qu'il existait, ce ne serait pas une idée dans cette crise ?
Écoutez, je sais pas. Dans le passé, donc les dettes publiques ont augmenté, notre dette publique va augmenter, c'est évident. Et la question, il va y avoir évidemment qui va payer la note. Bon, une partie, ça sera la croissance de long terme. Donc je crois qu'il ne faut rien faire qui bloque la croissance. Parce que si vous bloquez la croissance, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc je pense que la France a pris un certain nombre de décisions qui ont justement, comme je dis, encouragé les investissements en France, relancé la machine, fait baisser le chômage. Donc je crois qu'il ne faut pas contrarier ces politiques-là, vous voyez. Donc maintenant, je pense qu'en partie, c'est la croissance qui va nous permettre de financer ces 300 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il n'est pas impensable qu'on ait recours à un moment donné à des emprunts obligatoires. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on a des souscriptions forcées d'emprunts d'État. C'est possible. Je ne dis pas que c'est ce que va faire le vous voyez, mais ça sera fait sur beaucoup d'années. Mais je pense qu'il y aura probablement un aspect emprunt également. Mais je vois ça plutôt que le rétablissement de l'ISF. Vous voyez, je vois plutôt la croissance et le recours à des emprunts. Voilà, je pense que déjà là, on peut faire beaucoup de choses.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe Aguillon, d'avoir été mon invité ce soir.
Je vous en prie. Bonne soirée.
Et voilà l'interview politique d'Aurélie Herbemont. L'Aurélie, l'interview politique revient demain, Aurélie Herbemont, évidemment. On vous attend à 19h10 avec
à demain, Nathalie.
Votre invité. À demain.
Europe 1. Et votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Nathalie Lévy. Juste avant de retrouver les infos de 19h30, on prend un temps d'avance avec vous, comme tous les soirs.
Et oui, c'est demain en France. C'est comme ça que ce rendez-vous s'intitule. Bonsoir Jean-Pierre Montané.
Bonsoir Nathalie.
Bon, demain 1er avril, hein, ça ne m'a pas échappé, vous non plus. La tradition séculaire et planétaire du poisson d'avril risque quand même de faire une pause, peut-être remarquée dans les salons ou dans les chambres d'enfants, mais en raison de l'épidémie, évidemment du Covid-19, ce ne sera pas de la même ampleur.
Oui, exactement, Nathalie. Le géant et facétieux Google, un très fan des canulars le 1er avril pour mettre en avant son côté atypique, a officiellement annoncé une trêve de l'humour cette année par respect pour tous ceux qui se battent contre le Covid-19. On regrettera donc demain, vous la première, hein, les blagues tordantes, hein, je plaisante bien sûr, du moteur de recherche qui nous avait une année promis la sortie de Google Gnome, assistant personnel à l'allure de Nan Jardin, ou la création de l'application Tulip qui devait nous permettre de converser avec nos géraniums. Toutes les nouvelles blagues de Google en préparation sont donc précieusement gardées pour l'année prochaine, si bien sûr tout va mieux.
Oui, mais j'espère que ce sera pas, ils vont pas nous doubler la dose. J'imagine que la presse et les institutions vont aussi lever le pied donc.
Oui, tous les médias que j'ai sondés, l'équipe, France Télé, TF1, les radios, personne ne va s'aventurer demain sur ce terrain-là miné. À la télé, il faut remonter déjà à quelques années pour voir dans le JT de 20h un sujet sur les éoliennes qui ralentissent la rotation de la Terre. Plus c'est gros, plus ça passe. L'an dernier, la police nationale, via Twitter, avait annoncé qu'elle recrutait pour des missions spéciales des lapins. Vous voyez, Nathalie, toute cette légèreté, voire cette absurdité, n'a pas forcément sa place demain sur les sites d'info, alors que l'heure est grave avec ce virus, mais surtout, attention à la confusion. La toile est déjà suffisamment infestée par de fausses nouvelles, virales elles aussi. Là, ce n'est plus un poisson d'avril, mais un poison.
Ah oui, un vrai poison. Que colportent sur le virus toutes ces fake news, justement ?
Alors, Nathalie, l'imagination des complotistes n'a pas de bornes, comme me le rappelait Thomas Huchon, un journaliste traqueur de fake news. Ce sont des posts ou des vidéos vues, partagées des centaines de milliers de fois dans le monde. Alors pour les conspirateurs, le virus est une invention pêle-mêle de la CIA qui a voulu déstabiliser la Chine avec tantôt l'aide de Bill Gates ou de George Soros. Ce sont les juifs qui ont inventé sa thèse affreusement classique. Pour les antisystèmes, il a été mis au point par l'Institut Pasteur, pour se faire du fric tout simplement. Il a été créé pour décimer les seigneurs et supprimer la réforme des retraites. Il se propage grâce aux ondes de la 5G, d'où son apparition en Chine. Enfin, pour les escrocs porteurs de conseils bidons, il suffit pour ne pas l'attraper de faire des bains de douche avec de l'eau vinaigrée ou une cure d'ail. Donc vous le voyez, Nathalie, le monde doit non seulement éradiquer une pandémie, mais aussi se débarrasser de cette infodémie, comme l'a qualifié l'OMS.
Ouais, et qui fait parfois aussi beaucoup de dégâts, malheureusement. Merci Jean-Pierre Montanet de nous avoir éclairé encore une fois ce soir. C'était Demain en France, Demain dans le monde. On s'éloigne un peu avec Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir Nathalie.
Et on revient sur ce soir sur ces appels à une trêve humanitaire mondiale, à une suspension de tous les conflits tant que durera la pandémie du Covid-19. Et cela afin de protéger les civils, toujours plus vulnérables aux maladies en temps de guerre, évidemment.
Effectivement, les appels en ce sens se sont multipliés avec ce dimanche à l'occasion de l'Angélus, cette prière du pape François pour un cessez-le-feu global et immédiat partout dans le monde, car, précise-t-il, le coronavirus ne connaît pas de frontières. Le Vatican d'ailleurs propose de mettre son réseau diplomatique, très discret mais très efficace, à la disposition du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a été le premier à faire cette proposition de trêve planétaire dès la semaine passée avec l'idée de mettre en place des corridors humanitaires pour faire parvenir l'aide internationale aux populations civiles piégées dans les zones les plus sévèrement touchées par les combats. Donc, plusieurs projets de résolution ont d'ailleurs été présentés au cours des derniers jours au Conseil de sécurité de l'ONU à New York avec l'appui de la France, mais toutes butent évidemment sur les profondes divergences qui opposent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Paris milite en faveur d'une réponse coordonnée face à la pandémie, ce qui irrite les États-Unis de Donald Trump, pas très favorable au multilatéralisme, et qui en plus voudrait faire figurer dans le texte l'origine chinoise du virus. Évidemment, c'est inacceptable pour Pékin. Quant à la Russie, elle se montre réticente à autoriser le Conseil de sécurité à se saisir d'un sujet de santé, ce qui lui ouvrirait un nouveau champ de compétences. Et puis surtout, elle ne veut pas de cessez-le-feu en Syrie. Donc, tout ça n'est pas simple.
Et pourtant, plusieurs pays ont déjà accepté les trêves.
Absolument, le Yémen par exemple, où les combats ont été très largement suspendus par l'ensemble des camps. Le Cameroun également, où l'armée a annoncé la suspension de ses opérations militaires dans les provinces sécessionnistes anglophones. Aux Philippines, c'est la rébellion communiste qui a commencé pourtant en 1948, qui vient de cesser les hostilités contre le gouvernement. Et puis demain, en Colombie, la principale force de guérilla, les ELN, entamera un cessez-le-feu unilatéral d'un mois, et puis elle a appelé les autres groupes armés à en faire de même.
Merci beaucoup Didier François, à suivre évidemment avec vous. Rendez-vous demain à la même heure.
Europe 1.
À suivre dans la prochaine demi-heure jusqu'à 20h avec vous Nathalie Lévy.
Alors en fait, on va un petit peu s'évader ce soir. Alors comprenez-moi bien, hein, on est en confinement, donc on va essayer de vous aider. Ils sont explorateurs, alpinistes, spéléologues. À leur manière, ils ont vécu le confinement, ce moment suspendu, ce moment d'introspection aussi. Leur confidence dans un instant et leurs conseils, c'est à suivre.
Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Produire davantage en France, restaurer la souveraineté française. La promesse d'Emmanuel Macron dans une usine de masques. 4 milliards d'euros seront débloqués pour en fabriquer 40 millions par mois, ainsi que 10 000 respirateurs d'ici la fin du mois, d'ici la mi-mai. À l'aéroport d'Orly, en sommeil ce soir pour une durée indéterminée, conséquence de l'effondrement du trafic aérien. Les tours opérateurs français annoncent de leur côté le report de tous les départs prévus jusqu'au 15 mai. La troisième semaine de confinement a débuté aujourd'hui. Nous suivons toujours l'état de votre morale. 13e vague de notre baromètre réalisé avec BVA et Orange. Eh bien, ce moral n'a jamais été aussi bon depuis le début de la crise. 6,3 sur 10, c'est la note que vous mettez vous-même à votre état d'esprit. Dans le reste de l'actualité, l'ancien sélectionneur des Bleus, Michel Hidalgo, inhumé aujourd'hui dans un survêtement de l'Olympique de Marseille, club dont il fut le directeur sportif. Et puis la mort de Pierre Bénichoux, journaliste, ancien dirigeant du Nouvel Obs, et surtout une voix qu'on n'oublie pas ici à Europe 1, une gouaille qui animait les après-midi dans la bande de Laurent Ruquier. Pierre Bénichoux s'est éteint dans son sommeil la nuit dernière. Il avait 82 ans. Sa famille précise que son décès n'est pas lié au Covid-19.
Merci Sébastien Krebs. L'info revient avec vous demain dès 18h, sans faute. Anissa, le soleil au rendez-vous demain?
Oui, c'est ça, exactement. Nathalie Lévy, le soleil donne demain toute la journée. Alors, on va pas vous la faire en chanson, mais on va passer à Laurent Voulzy, puisque demain, il n'y aura aucun nuage.
Je préférerais vous le laisser, vous avez remarqué.
Vous aviez pas envie de le dire, hein, j'ai vu. Il n'y aura aucun nuage dans le ciel de la moitié nord demain. C'est vraiment une très belle journée. Le vent va même se calmer, donc c'est très agréable. Il n'y a finalement que sur les Pyrénées, l'Occitanie, la Côte d'Azur, une partie de la Corse et le Languedoc-Roussillon. Il n'y a que là que vous aurez des nuages demain qui pourront vous apporter quelques gouttes. Tiens d'ailleurs, sur la Côte d'Azur et le Languedoc-Roussillon, des petites averses. Mais sinon, la journée reste dans l'ensemble assez agréable. Attention au vent d'autant qui se renforce et qui souffle fort demain jusqu'à 90 km/h. Les températures toujours froides. Hein, le matin, on aura des gelées. Moins 4 à Clermont-Ferrand et Montluçon. Jusqu'à 10 degrés au bord de la Méditerranée. Puis dans l'après-midi, 11 à 18. 11 pour Lille et Caen, 14 à Paris et 18 à Bordeaux.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, vous le savez. Et tous les soirs, nous vous proposons de vous évader, d'oublier un petit peu cette morosité quotidienne. Ce soir, Nathalie, vous avez voulu donner la parole à des explorateurs, des spéléologues, des astronautes qui ont tous vécu ce confinement si particulier.
Oui, on va entendre ces aventuriers dans un instant, mais d'abord, quels sont les conseils des pros du confinement? Bonsoir Théophile Cossa.
Bonsoir Nathalie.
Alors, vous avez posé la question à Michel Siffre, spéléologue de renom. Quel regard porte-t-il sur cette période et quels conseils finalement il nous donne pour mieux supporter le confinement?
Oui, bah, vous savez, hein, Michel Siffre, explorateur niçois mondialement célèbre pour ses exploits spéléologiques et ses expériences scientifiques extrêmes. 2 mois passés seul et sans contact avec l'extérieur dans une grotte près de Nice à 100 km sous terre, c'était en 1962. Même expérience au Texas en 1972. 402 jours passés cette fois sous terre pour le compte de la NASA. Alors je peux vous dire que le confinement, ça le connaît. Michel Siffre a aujourd'hui 81 ans et donne bien volontiers ses conseils pour mieux supporter cette épreuve qu'il ne compare pas à ses expériences d'ailleurs, hein. Très différent d'abord parce que le confinement que nous vivons est imposé, on ne l'a pas choisi. Et puis ensuite parce qu'il se fait dans un climat anxiogène, peur de l'épidémie, peur pour nos proches. Et justement, pour combattre la peur, Michel Siffre préconise d'abord de positiver.
Je crois qu'il faut être positif. Il faut se dire que de toute façon, ça se terminera. C'est une épidémie, pas de bol, j'y suis dedans, mais je vais en sortir. La peur, c'est pas bon. Hein. Il faut se dire que non, que tout va bien, même si ça va mal.
Vous l'avez entendu, hein, relativiser, se dire que tout va bien même si ça va mal, et puis s'occuper pour ne pas penser au temps.
La lecture était très importante pour moi dans les expériences. D'autres, ça va être de dessin, d'autres, ça va être de faire de la gym, trouver une occupation à faire, pour avoir son cerveau toujours en mouvement.
Oui, parce que le problème du confinement, alerte Michel Siffre, c'est bien le problème du temps. Il ne faut pas Attendre, me disait-il. Quand on attend, c'est terrible. Il faut vivre. Quand on ne pense pas au temps, le temps passe plus vite. Et quant à ses conseils lecture, des romans pour s'évader. Écoutez.
Quand j'étais sous terre au Texas, je lisais par exemple pas mal de Balzac. Eh bien, en même temps que je lisais, je voyais les scènes qui étaient représentées. J'ai lu les Trois Mousquetaires pendant que j'étais sous terre. Je voyais D'Artagnan. Pour moi, ça a été extrêmement positif.
Voilà, et en ce moment, c'est La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, le livre de chevet de Michel Siffre. Autant de petits secrets pour que le temps passe plus vite. La clé, selon lui, pour réussir chacun individuellement à surmonter cette épreuve du confinement.
Merci beaucoup Théophile Cossa, c'était fort intéressant. On va poursuivre justement ce process avec nos invités ce soir. Christian Clos, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, explorateur, chercheur, écrivain. Vous avez lancé une étude Covadapt, étude des impacts et adaptations face à la crise du Covid-19. Et Jean-François Clairvoy est également avec nous. Bonsoir Jean-François Clairvoy.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, vous, astronaute, on vous connaît, astronaute européen. Vous avez 3 vols à votre actif. Je vous interroge, Jean-François Clairvoy. Évidemment, dans l'espace, on est dans un autre type de confinement. Mais là, l'expérience imposée, hein, on le rappelle, que l'on vit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme concomitance ?
Oui, c'est vrai que la différence, d'abord, pour en parler, c'est effectivement, il est imposé. Et surtout, les personnes ne sont pas préparées. Nous acceptons le confinement parce qu'il va avec la mission qui nous motive, et nous sommes préparés parce que nous entraînons dans des simulateurs qui représentent le même volume. Bon, et il varie selon les missions. Vous avez parfois quelques astronautes dans l'équivalent d'un 5 mètres carrés pour 2-3 jours. Ouais. Et puis dans la station spatiale, c'est 6 personnes, 3 à 6 personnes dans l'équivalent d'un 300 mètres carrés, mais pendant 6 mois. Et par contre, c'est un confinement étanche. Alors, par contre, ce qui est commun, c'est que lorsque vos sorties sont très limitées, il faut vous occuper chez vous. Mais c'est très important. Ceux qui sont en télétravail, s'ils arrivent à se discipliner, bien, il faut qu'ils se mettent mentalement comme s'ils étaient au bureau. Et ceux qui ne sont pas en télétravail, mais chez eux, il faut bien sûr qu'ils pratiquent de l'exercice physique. Il faut qu'ils se donnent un plan de ce qu'ils vont faire dans la journée. Alors évidemment, il y a ceux qui ont un jardin, le jardinage, ceux qui bricolent, du bricolage. Moi, je pense que c'est une bonne occasion pour s'instruire et puis apprendre des choses dans des disciplines qu'on maîtrise pas. Et pour un musicien, apprendre à jouer d'un nouvel instrument, par exemple.
Par exemple. Alors, je vais revenir vers vous dans un instant, Jean-François Clairvoy. Christian Clos. Alors, il y a cette étude Covadapt que vous venez de lancer. En quoi consiste-t-elle exactement? Qu'est-ce qu'elle nous apprend?
Alors, elle va consister en 2 choses. D'abord, il faut essayer de comprendre tout ce qui se passe pour les humains d'aujourd'hui et comment est-ce qu'on va s'en servir concrètement, comment est-ce que les gens arrivent à se transformer très vite, à s'adapter à une nouvelle situation pour finalement être mieux résistants, mieux réactifs éventuellement aux prochaines crises. Mais nous, on a une théorie différente. On se dit en plus que si on arrive à comprendre comment on réagit dans une crise comme celle-ci, on peut peut-être éventuellement éviter les prochaines crises parce qu'on aura mieux compris les mécanismes de fonctionnement des humains quand ils sont confrontés à des besoins. Et finalement, peut-être qu'on arrivera à recréer ces besoins sans attendre la crise pour peut-être avoir une influence positive sur notre futur et éviter les vraies crises potentielles du futur aussi, celles du climat, de l'écologie et autres. Et pour ça, bah, finalement, étonnamment, on a très très peu de données sur ce qui se passe pour un humain durant une crise. On a plein de choses qui nous racontent ce qui s'est passé après, mais le pendant, c'est pas beaucoup parce que, et heureusement, d'abord, ça n'arrive pas tous les jours, les crises. Et en plus, bah, quand ça arrive, on ne pense pas à mettre en place des études, on pense à gérer la crise.
Oui, bien sûr.
Là, on a Pardon ?
Non, alors cette étude, du coup, elle est lancée depuis quand ? Alors, vous avez démarré quasiment au premier jour du confinement ?
Alors, pratiquement, on a réussi à la mettre en place en 3-4 jours juste après l'annonce du confinement. Et elle est en ligne déjà maintenant depuis une dizaine de jours. Elle va se poursuivre pendant une année. Donc, il y a eu une première cohorte qui a répondu, qui continue de répondre. Et puis, toutes les semaines, on va les interroger, on va continuer de les questionner pour voir comment ils évoluent, comment justement ils arrivent à mettre en place ces mécanismes dont vient de parler Michel Siffre ou Jean-François Clairvoy sur comment est-ce qu'on s'occupe, comment on recrée un système, comment on apprend quelque chose de nouveau, comment est-ce qu'on s'évade intellectuellement alors qu'on est enfermé quelque part. Toutes ces questions-là, c'est essayer de mieux comprendre en quel temps ça se met en place et comment on peut entraîner ensuite le cerveau. Nous, c'est notre but, hein, dans une année, on aimerait pouvoir se dire, OK, aujourd'hui, on peut entraîner un cerveau à mieux résister. Et la petite différence, et ça se fait déjà, hein, que Jean-François, il l'a dit, ils sont entraînés, donc on sait déjà un peu ça, mais la différence, là, c'est que c'est des humains qui ne sont pas préparés. Et c'est vraiment c'est toute la force.
Alors, juste un mot, on va se retrouver après dans un instant, mais cette étude, donc, elle concerne toutes les couches sociales, hein, âge, métier, tout confondu, situation, etc. Est-ce que, quand même, il va y avoir des points d'étape où vous attendez effectivement une année pour donner les conclusions, pour rendre les conclusions ?
Non, toutes les semaines, on va essayer de faire un petit point d'étape. Et si on voit des éléments très importants à peut-être signaler, notamment sur la santé mentale, hein, est-ce que les gens ne vont pas se dégrader? Est-ce qu'il n'y a pas un passage à la limite où finalement le danger du confinement devient plus grand que le danger du virus? C'est une vraie question qui sera à se poser. On n'a pas forcément, nous, toutes les réponses. D'autres études sont en cours là-dessus. Mais par contre, on va pouvoir peut-être donner une indication d'état mental de la société française aujourd'hui.
Donc cette étude qui est unique hein, dans ce type de situation. On va y revenir avec vous de Christian Clos, parce que vous, Christian Clos, vous avez vécu des confinements involontaires. Hein. On va y revenir dans un petit instant. Jean-François Clairvoy, également astronaute européen, qui nous répond ce soir également sur cette expérience. A tout de suite sur Europe 1, au 39-21.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Bonjour, c'est Mathieu Noël. Vous pensez vraiment que j'aurais profité de la crise du coronavirus pour vous abandonner et ne pas présenter l'équipée sauvage sur Europe 1? Eh bien, c'est mal me connaître. Enfin, disons que j'ai pas trop eu le choix. C'est avec un sens du devoir à nul autre pareil que je vous retrouve tous les jours de 16h à 18h pour 2h de confinement rieur présenté depuis chez moi où je débarque chez vous.
Mathieu Noël, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Rassurez-vous, je me serai lavé les mains.
Et maintenant, comme chaque mardi, parlons investissement responsable.
Et ce soir, je suis en ligne avec Pascal Bossan, conseiller en gestion de patrimoine. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous venez de publier Petit manuel pour l'entreprise, comment agir pour le climat, préfacé par Yann Arthus Bertrand aux éditions EMS. Et on devine facilement que l'investissement responsable est pour vous une priorité. Mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Il me semble évident que la finance doit évoluer et doit rechercher non plus seulement uniquement des performances financières, mais également de l'impact. Et l'objectif de la finance, ça doit être aujourd'hui d'accompagner les entreprises de manière plus importante dans tous les défis qui nous attendent.
Et de quelle manière le label ISR vous accompagne, vous et vos clients ?
Le label ISR, donc investissement socialement responsable, nous aide à flécher les investissements pour nos clients. Un peu comme le label bio est dans la grande consommation, et bien le label ISR donne une visibilité aux solutions d'investissement, que ce soit pour nous, distributeurs d'épargne, donc conseillers en gestion de patrimoine, ou pour les clients finaux.
Merci Pascal Bossan, à bientôt.
Avec plaisir, merci.
Pour en savoir plus sur le label ISR, parlez-en avec votre conseiller.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous Nathalie Lévy et avec vos invités ce soir, puisque vous avez voulu donner la parole à des explorateurs, des spéléologues, des astronautes qui ont tous connu et vécu ce confinement si particulier auquel nous essayons de nous habituer. D'ailleurs, si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas, ça se passe dès maintenant au 39-21 et puis sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte. Évidemment, on lit vos questions et vos témoignages jusqu'à 20h.
Oui, on est avec des explorateurs, avec des astronautes ce soir. Christian Clos, explorateur, Jean-François Clairvoy, astronaute européen, et nous a rejoint également Laurence de la Ferrière. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes alpiniste, exploratrice, la seule femme qui a traversé l'Antarctique dans les années 90. Vous avez... 2000 bah voilà, oui. 2000.
Bah alors, je raconte sur le temps.
Voilà, c'est aussi partie des effets du confinement, pardonnez-moi. Laurence de la Ferrière, comment on vit là cet épisode qui dure déjà depuis 15 jours, qui va encore durer, et au regard, vous, de ce que vous avez vécu, de ces expériences que vous aviez certes choisies, hein?
Oui, mais bon, en fait, pour moi, le confinement n'est pas vraiment une question d'espace, mais il s'agit plutôt d'une relation que l'on établit avec soi-même. Je ne trouve pas plus difficile de me retrouver toute seule dans mon petit appartement à Chamonix que ce que j'ai ressenti quand j'étais seule au milieu des glaces de l'Antarctique. En fait, pour moi, c'est un peu deux sortes d'expéditions différentes. Mais dont le challenge est de réussir un défi dont la part d'inconnu est très importante. Oui. Et ça, je trouve que la dimension de l'inconnu est probablement la dimension qui est la plus impressionnante pour beaucoup de gens qui n'ont pas eu l'expérience.
Et donc la plus anxiogène.
Et c'est probablement la plus anxiogène. Mais voilà, après, c'est pour ça que la relation avec soi-même est extrêmement importante. Après, l'idée d'avoir peur, c'est quelque chose de nécessaire parce que c'est un mécanisme de défense et c'est une mise en alerte. Et c'est l'occasion, en fait, de franchir des obstacles qui nous appartiennent et qu'on peut intellectuellement, psychologiquement, arriver à franchir. Et ça, c'est quelque chose de très important, je pense, sur le plan humain et sur le plan personnel.
s'approprier en quelque sorte notre nouvelle vie, ce nouveau mode de vie, en fait, sans faire son meilleur allié. Alors, est-ce que les hommes et les femmes réagissent de la même manière dans ce confinement? Certainement que non. Je me tourne vers nos autres invités, Jean-François Clairvoy ou Christian Clos. Évidemment qu'on n'a pas le même rapport au confinement. Jean-François Clairvoy, vous naviguez avec des femmes en vol actif. Oui.
Oui, j'ai volé avec trois femmes qui s'appelaient toutes les trois Hélène d'ailleurs, mais c'est pas juste par hasard. Ouais. Mais ouais. Bon, il n'y a pas de différence. Elles sont préparées comme tous les astronautes. Oui. Elles ont une mission et elles sont aussi performantes. Et certaines ont été commandantes de bord et pilotes de la navette spatiale américaine. Mmh. Je voudrais faire une petite remarque sur le. J'admire Christian et Laurence qui ont vécu dans des milieux extrêmes et vraiment hostiles. Ouais. Nous, dans notre vaisseau, nous sommes dans un cocon confortable. À l'extérieur, l'environnement est très hostile, mais on n'y est pas confronté avec notre corps, notre peau. Christian et Laurence ont souvent, dans leurs expéditions, enfin, ils pourront en parler mieux que moi, mais après avoir échangé avec eux, ils sont surtout isolés. Il faut distinguer le confinement de l'isolement. Eux étaient très isolés, c'est-à-dire personne ne pouvait venir les aider tout de suite. Ils n'avaient pas accès à une aide tout de suite. Nous, dans l'espace, on est bien sûr on est en distance loin de la Terre, mais on peut revenir en quelques heures si nécessaire. On est en liaison radio constamment avec des experts qui peuvent nous aider. Et en ce moment, le confinement que nous vivons, il n'est pas totalement étanche. Tout le monde peut sortir chaque jour un petit peu en respectant les règles.
C'est vrai.
Et je pense que moi, en tant qu'astronaute, je ne vois pas tellement de conseils que je peux donner parce que j'étais préparé, mais en tant que citoyen, je pense à tous ceux qui ne sont pas préparés, comme disait Christian, comme le dit Laurence. Et c'est à nous de les aider, d'appeler nos proches que l'on sait être stressés ou ceux qui sont déjà malades, déjà au départ d'autre chose, ou qui n'ont pas de facilité pour se faire ravitailler. Donc voilà, il faut trouver une mission chaque jour et ça peut être celle d'aider ceux qui sont dans des conditions moins confortables que d'autres.
Effectivement, et la solidarité qui joue à plein durant cette période, on l'a vu hein, chaque jour. Christian Clos, si j'entends Jean-François Clairvoy, effectivement, il nous dit que en vol, c'est quand même une autre forme de sécurité, si j'ose dire. Vous avez été otage. Donc là, pour le coup, le confinement involontaire, clairement, ça a duré à peu près une quinzaine de jours, une petite quinzaine de jours, et d'ailleurs dans une tempête. Ça, c'est une vraie situation de crise, quand même.
Alors, il y a eu plusieurs fois où j'ai été retenu, effectivement, soit dans une tempête, mais ça, c'est la tempête, soit par des humains, et ça, c'est un peu moins drôle, parce que là, il y a une volonté. Ouais. Mais dans tous les cas, effectivement, on est dans une situation où on ne connaît pas la fin. On ne sait pas combien de temps ça va durer et c'est peut-être ce qui change d'un confinement où on a une durée prévue qui nous permet d'avoir une projection mentale précise. Donc là, il n'y a qu'une seule solution dans un confinement tel que le nôtre, même si on a quand même une petite idée, hein, ça ne devrait pas durer 10 ans, mais ça va durer peut-être quelques semaines de plus, c'est de se fixer des objectifs suffisamment précis, suffisamment clairs dans sa journée pour arriver à s'accrocher à ça, se donner...
C'est ce que vous faisiez, pardonnez-moi, quand vous étiez captif? C'était oui, vous raccrochiez à des moments, des images.
Il y a trois choses. L'objectif du quotidien qu'on arrive à se fixer pour tenir le coup pendant quelques heures encore, puis ensuite le prochain, puis ensuite le prochain. Il y a vraiment l'imaginaire, la capacité de se sortir de la situation, de penser à des choses, d'imaginer la construction du futur. Et puis il y a ce qu'on peut appeler les vrais plaisirs, les moments qu'on doit s'accorder, ces instants. Alors par exemple là, on a le droit de sortir pour courir, par exemple. Mmh. Ça a été beaucoup décrié, mais n'oublions pas que si on veut préserver la santé mentale des gens, il faut leur laisser ces petits moments, ces instants où ils se font pleinement plaisir et qui font partie de la santé des personnes quand elles sont confrontées à cette situation. Je rejoins complètement Jean-François quand il disait « Pensons d'abord aux personnes les plus fragiles ». Nous, on a quand même, et je pense que Laurence, Jean-François et moi, on a vécu des choses extraordinaires, mais on a aussi la chance d'être en bonne santé, d'être bien et de pouvoir dépasser ces situations. N'oublions pas toutes les personnes qui étaient fragiles et on a un vrai rôle à jouer là-dessus. Je crois que c'est aussi un début de notre étude et je précise, je ne l'ai pas dit avant, mais tout le monde peut y participer. Il suffit d'aller sur le site humanadaptationinstitute.com et on peut participer à l'étude. Et ben, ces informations, elles sont précieuses pour nous.
On va le relayer évidemment sur le site Europe 1. On va se retrouver tous les trois dans un petit instant, si vous le voulez bien. Laurence de la Ferrière, vous allez nous donner des conseils pour ne pas flancher, pour aussi nous dire peut-être à partir de quand le confinement devient difficile à supporter, même si c'est pas évidemment ce que vous avez vécu, mais ces situations extrêmes auxquelles vous avez été confrontés. On se retrouve avec vous, Jean-François Clairvoy et Christian Clos, tout de suite. Merci à tous les trois.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. Vous donnez la parole à des explorateurs, des spéléologues, des astronautes, des alpinistes qui ont tous vécu ce confinement si particulier qui pour nous est une découverte encore et qui vous fait réagir hein, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Radio Ouverte ou au 39-21. Vous pouvez les interroger, n'hésitez pas, ils sont avec nous jusqu'à 20h, Nathalie.
Oui, et c'est exceptionnel de vous avoir tous les trois. En plus, vous vous connaissez bien, donc c'est doublement agréable. Jean-François Clairvoy, astronaute, Laurence de la Ferrière, évidemment l'alpiniste et exploratrice qui est la seule femme, la première au monde à avoir intégralement traversé l'Antarctique. Et puis, pardonnez-moi... un petit chat dans la gorge, Christian Clos, pardon, tout va bien avec cette étude Covadapt que vous avez lancée, qui est la première étude, la seule étude des impacts et adaptations face à la crise du Covid-19. Explorateur également, je vais essayer de retrouver ma voix pour conclure avec vous, parce que j'ai encore pas mal de questions à vous poser. Je me demandais, à partir de quand, peut-être Laurence de la Ferrière, une situation comme le confinement, ou comme vous, ce que vous avez évidemment vécu lors de vos traversées, devient épouvantable, bascule en fait.
Elle ne doit pas devenir épouvantable. Le défi, c'est vraiment de transformer une épreuve en quelque chose de positif. Et il y a des mécanismes qui, alors Christian en parlera mieux que moi et Jean-François aussi, mais il y a des mécanismes à mettre en œuvre très vite que j'ai utilisé très souvent à travers mes expéditions. C'est d'une part d'étudier la situation avec la plus grande lucidité. Et surtout, se libérer de ce qu'on croit savoir pour mieux comprendre, pour mieux s'adapter à une nouvelle situation. Et puis après, de s'inventer de nouveaux repères pour créer une sorte de discipline qui soit justement valable à long terme. Et la dernière chose que je dirais qui me semble vraiment indispensable, c'est surtout de ne pas avoir besoin de ce qui est devenu inaccessible. Mmh. Il faut repousser vraiment impérativement toutes les pensées négatives qui vont empiéter sur votre force, sur vos capacités, sur votre énergie et qui, à la limite, vont faire que votre peur va se transformer en angoisse. Et à ce moment-là, vous allez rentrer dans une sorte de sidération, de paralysie qui va vous empêcher d'être créatif, de participer, de communiquer.
Alors, on a une question Twitter pour l'un d'entre vous, Anissa ?
Oui, c'est une question d'Isabelle qui se pose la question depuis le début du confinement. Comment aborder le retour à la normale sans que ça soit trop brutal ?
Ah oui, alors qui peut y aller ? Jean-François Clairvoy, Christian Clos, qui est-ce qui veut peut-être vous aller ? Alors
quand
allez-y.
Quand j'étais coach de la nouvelle promotion d'astronautes, je faisais partie du jury
Jean-François
qui
l'a
sélectionné, je les connaissais, et je leur dirais justement quelque chose qui est très important. Quand vous êtes affecté à une mission spatiale, c'est tellement excitant que vous avez envie de vous consacrer qu'à ça intellectuellement, mentalement, physiquement. Aujourd'hui, je vais m'entraîner à faire une sortie dans l'espace, etc. Et je leur disais, c'est très important avant la mission de réfléchir et de construire un minimum ce que vous avez l'intention de faire après le retour.
Après, d'accord.
Parce que quand vous revenez, la mission est derrière, et si vous n'avez rien préparé, c'est comme le vide. Et certains astronautes l'expriment, ce vide ou ce qu'est-ce que je vais faire maintenant d'aussi extraordinaire que ce que j'ai fait auparavant. Donc c'est très important. Et ça, c'est encore une fois quelque chose pour lequel on est préparé, ce qui n'est pas le cas des personnes maintenant. Mais même si on ne sait pas quand on va sortir, se préparer à qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on sortira, se préparer des scénarios, c'est important. C'est important.
On commence à entendre, vous savez, même des artistes pour certains qui disent bah voilà, moi le premier truc que je ferais c'est un apéro géant et sans limite, voyez, un petit peu ce genre de réaction, j'allais dire un peu primaire, mais qui semble effectivement être très liée à la solidarité, encore une fois, aux retrouvailles avec ses proches, aux retrouvailles avec ses amis, avec la vie, quoi. Vraiment, on entend beaucoup ce refrain là, ça vous surprend pas? C'est vraiment ça en priorité qui prime, c'est le retour à la vie, à l'envie.
Ça rejoint ce que
moi je rajouterais. Pardon. Non, pardon. Excuse-moi, Jean-François. Non, bon, alors, juste pour compléter ce que disait Jean-François, je rajouterais que ce qui me semble aussi très important, c'est de noter tous les jours régulièrement ce qu'on ressent, ce qui se passe, ce que l'on vit. Moi, j'ai découvert des voisins, j'ai découvert des envies, des choses. Bon, et pour qu'après, on puisse se souvenir. Parce que moi, ce que je crains, c'est qu'au retour, on soit à nouveau happé par un mode de vie avec des nécessités, avec des exigences qui ne sont plus forcément les nôtres. Et le fait de l'avoir inscrit régulièrement nous permettra peut-être de revenir là-dessus et de se poser par rapport à ces réflexions.
Alors noter tous les jours, ça c'est très bien, et je le note d'ailleurs, et c'est, je pense que c'est important aussi sans doute pour les enfants, on n'en parle pas, mais sans doute faut-il raconter effectivement ce qui a été bien dans une journée ou moins bien, travailler son hypothalamus, ça vous nous l'avez tous dit, bien sûr se raccrocher, enfin travailler donc ses méninges, se raccrocher aussi à des images, à des choses positives. Christian Clos, encore un mot peut-être sur la sortie, effectivement comment on l'envisage, vous qui avez vécu des situations extrêmes également?
Oui, juste ne pas penser qu'on va retrouver l'après comme on avait l'avant. Ça, c'est très, très important. Donc, une des constructions mentales, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut pour après? Et je crois qu'aujourd'hui, on a une évidence qu'on veut pour après, c'est pas retrouver des situations où on est en course en avant permanente. Et on doit retrouver cette volonté de construire notre futur. Et cette volonté-là, on doit l'avoir tellement forte en soi qu'on commence déjà à imaginer un autre futur, vraiment, et pas celui qu'on aura peut-être, mais c'est pas grave, il sera assurément pas celui qu'on avait avant. Donc ne cherchons pas à retrouver exactement ce qu'on avait.
Même pas progressivement, vous pensez pas qu'on y retourne de toute façon, d'une manière ou d'une autre, tous les trois pour conclure. Évidemment, il va y avoir les premiers instants, il va y avoir l'euphorie de la liberté, de pouvoir toucher à tout le monde, etc. Mais d'une manière ou d'une autre, on sera pas happé de nouveau par le quotidien, inévitablement.
Vous savez ce qu'on dit en aviation et dans le spatial, l'expérience, c'est ce que l'on retient des erreurs auxquelles on a survécu. C'est très important de tirer les leçons. Les leçons nous donneront de l'expérience. Et quand on a l'expérience de quelque chose de vécu, qui peut être très bien ou très difficile, quelle que soit l'expérience, on est plus fort et on ne répète pas les mêmes erreurs. On ne répète les mêmes erreurs que si on ne tire pas les leçons. Et je pense à une échelle beaucoup plus globale, mais là c'est juste quelques secondes. L'humanité est confinée à la planète Terre.
Bien sûr.
Et si on ne respecte pas les règles de sécurité de la mission qu'on a, nous, en tant qu'humanité, pour les générations futures, pour qu'elles vivent dans un monde meilleur et longtemps, on aura une catastrophe qui sera aussi sournoise que l'actuelle, sur le long terme, mais on va aussi vers une catastrophe.
On aurait pu vous garder jusqu'à 22h parce qu'effectivement, on voit aussi les effets de ce confinement sur notre planète. Aujourd'hui, on l'a vu depuis l'espace, on le voit chaque jour, même avec certains animaux qui reprennent leurs droits, la nature qui reprend ses droits. Merci beaucoup à tous les trois, Laurence de la Ferrière, Jean-François Clairvoy, Christian Clos. On a retenu ce que vous nous livrez ce soir sur les applaudissements quotidiens qui s'adressent aux soignants et à ceux qui travaillent chaque jour, qui se mettent en danger.
Une grande pensée.
Bien sûr, vous depuis Chamonix, Laurence de la Ferrière, vous êtes confinés, Jean-François Clairvoy, Christian Clos. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette dernière demi-heure. Ils sont nourris, ces applaudissements, un peu plus chaque soir. Et ça fait du bien, il faut que ça continue, il faut continuer à rester confinés, vous voyez. C'est pas une mission impossible, des grands connaisseurs nous l'ont dit ce soir et des grands explorateurs. C'est sur Europe 1 que ça se passe. On vous accompagne, on vous conseille chaque soir dans votre grand journal du soir. Et on soutient le personnel soignant, mais pas que le personnel soignant, tous ceux qui contribuent à nous aider à vivre quotidiennement à peu près normalement.